C'était peu de temps avant la fête de Pâques à Jérusalem, et Jésus est allé au temple. Il s'est arrêté à la porte du parvis et il a regardé dans le parvis ce qui se passait. Il y a vu les marchands, les trafiquants, les changeurs d'argent. Il y a vu toute cette activité commerciale. Et Jésus, depuis la porte, a regardé tout ce qui se passait. Devant lui, dans son esprit, se sont présentés tous les siècles à venir, où il a vu tous les chefs religieux qui, au travers des siècles, ont empêché au peuple de se présenter à Dieu. Il a vu au travers des siècles tous ceux qui ont tordu le message de la bonne nouvelle de la grâce en Jésus. Il a vu tous ceux qui ont fait de l'Évangile l'occasion d'un trafic et d'un commerce. Et en voyant cette scène, son cœur a été pris d'indignation. Son visage a changé. Sur son visage, on pouvait lire la puissance, l'autorité. Il n'avait toujours rien dit, mais sa présence a été ressentie par tout le monde, et tout le monde était mal à l'aise. Il était là, grand, droit, à la porte du parvis. Et peu à peu, le malaise s'est répandu dans tout le parvis, si bien qu'il y a eu comme un silence. On a regardé vers lui. Les gens se sentaient repris dans leur conscience, mal à l'aise devant sa présence divine évidente. Sur son visage, on voyait la divinité que son voile d'humanité n'arrivait plus à cacher. Il est descendu, il a pris une corde, et cette corde dans sa main est devenue comme une épée flamboyante. Il a chassé les animaux et les bœufs sont partis. Les moutons se sont échappés. Tous couraient vers la sortie. Les gens se sont sauvés. Il a renversé les tables. L'argent a volé dans tous les sens. Il a jeté les cages par terre. On sentait en lui cette puissance divine se manifester. Et alors que tout le monde se précipitait vers la sortie, un tumulte extraordinaire se développait dans le parvis du temple. Et tout d'un coup, il a pris la parole et sa voix dans le parvis a résonné comme la voix de Dieu avait résonné autrefois depuis le sommet de la montagne du Sinaï. Il s'est tourné vers les vendeurs de pigeons, nous dit le texte de l'évangile de Jean, chapitre 2, et leur a dit « Ôtez ça d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Tous sont sortis en courant. Voici comment Ellen White, il y a un siècle, décrivait la situation. Nul ne songe à mettre en doute son autorité. Personne n'ose s'arrêter pour ramasser le gain mal acquis. Jésus ne frappe pas de son fouet, mais ce simple instrument paraît entre ses mains comme une épée flamboyante. Les officiers du temple, les prêtres affairés, les courtiers, les marchands de bétail, avec leurs brebis, leurs bœufs, se précipitent au dehors, uniquement préoccupés d'échapper à la condamnation de sa présence. La foule, sentant passer sur elle l'ombre de sa divinité, est prise de panique. Et une fois tout ce beau monde sorti, le tumulte s'arrête, le bruit s'éteint et le silence se fait dans le parvis du temple. Mais curieusement, tous n'ont pas eu peur. Une fois que le parvis du temple est vidé de tous ceux qui faisaient du commerce et du trafic, on voit venir les mères avec leurs enfants, les malades, des boiteux, les infirmes. Et ils se rassemblent autour de Jésus, et Jésus leur parle, et Jésus va les bénir, et Jésus va les guérir, et Jésus va leur annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le cri des commerçants a maintenant fait place au cri de joie et de reconnaissance. Et de loin, beaucoup sont étonnés de voir la bonté de Christ envers les plus humbles du peuple. Jésus avait évidemment voulu montrer clairement son identité. Tous avaient compris de qui il s'agissait. Jésus voulait dire qui il était. Son aspect, d'ailleurs, trahissait son identité. Mais j'aimerais regarder à un autre aspect de cet épisode de la vie de Jésus où il va libérer le temple de tous ceux qui font du commerce. Jésus avait dit « Le temple n'est pas un marché. » Un marché, c'est un endroit où on va pour acheter, où on va pour vendre. La place du marché, c'est là où on va pour acheter ce dont on a besoin, et on ne quitte la place du marché que lorsque l'on a pu payer les choses que l'on veut ramener. Dans un marché, on ne peut avoir que ce que l'on mérite. Dans un marché, on ne peut avoir que ce qu'on achète. Et Jésus dit, le temple n'est pas un marché. Le temple que Jésus est en train de libérer de tous ses commerçants n'est pas un marché où l'on vient pour acheter ou pour vendre. Ce temple, dit Jésus, n'est pas un marché, mais une boutique de cadeaux. Et même pas une boutique de cadeaux où on va acheter des cadeaux, une boutique de cadeaux où on va recevoir des cadeaux. Et ce sont ces cadeaux-là qu'il a donnés aux enfants, qu'il a donnés aux infirmes qu'il est venu guérir, aux malades à qui il a rendu la santé. Voilà les cadeaux qu'ils ont reçus dans le temple. Le temple n'est pas un marché. Le temple est une boutique de cadeaux. Jésus n'a pas simplement libéré le temple de tous ceux qui étaient des voleurs, des commerçants. Il a voulu libérer le temple de tous ceux qui avaient conçu le temple comme un endroit où l'on vient acheter, où l'on vient acheter le cadeau que l'on va donner à Dieu. Il a voulu libérer le temple de tout cela pour que puissent venir ceux qui n'avaient pas de quoi acheter, pour que puissent venir ceux qui avaient besoin de la grâce totale de Dieu, pour que puissent venir ceux qui n'avaient rien à donner et qui avaient tout à recevoir. On avait développé l'idée que le salut de Dieu, il fallait l'acheter. Et l'on venait acheter des agneaux et l'on venait acheter des colombes. Alors que l'agneau de Dieu est gratuit, c'est le don de Dieu. Alors que la colombe de l'Esprit, c'est aussi un cadeau de Dieu, c'est gratuit. On venait acheter des agneaux, on venait acheter des colombes, alors que Dieu a fait en Jésus l'agneau de Dieu le plus grand cadeau qu'il puisse faire. Dans la colombe de l'Esprit, le plus grand cadeau pour nous permettre de vivre notre vie chrétienne, c'était gratuit. C'était gratuit dans la boutique de cadeaux du Seigneur. Et ainsi, dans cette boutique de cadeaux, les chants de reconnaissance ont remplacé les cris des marchands et des changeurs d'argent. Peu, en réalité, avaient compris que le cadeau de Dieu est un cadeau, qu'il ne s'achète pas. On avait développé cette idée qu'il faut acheter Dieu, acheter son salut, le mériter à tout prix. En réalité, le diable avait dans une grande mesure envahi l'esprit de ces gens. Parce que voyez-vous, le diable et Dieu ont deux manières de travailler qui sont totalement opposées l'une à l'autre. Le diable travaille de l'extérieur vers l'intérieur, alors que Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, lorsque quelqu'un entend l'appel de Dieu par sa parole, le diable, contrairement à ce que l'on croit, ne va pas lui dire « surtout ne réponds pas ». Ce serait trop évident. Lorsque quelqu'un entend l'appel de Dieu, le diable va lui dire « tu as raison, tu devrais répondre à Dieu et lui donner ton cœur. Réponds à Dieu et je vais te montrer comment il faut faire. » Ainsi, le diable s'occupe de celui qui veut répondre à Dieu. Et pour empêcher que son cœur se convertisse et que Dieu puisse commencer son travail de l'intérieur, le diable va créer trois barrières, trois grandes barrières pour empêcher l'œuvre de la conversion de se faire en profondeur dans son cœur. C'est la raison pour laquelle le diable va dire à celui ou à celle qui veut se donner à Dieu, « Vas-y, mais laisse-moi juste te montrer comment ça marche. » Alors le diable va mettre une première barrière pour nous empêcher de vivre cette conversion du cœur. Et il va nous dire, Montre au Seigneur à quel point tu mérites le cadeau qu'il t'a fait. Montre-le-lui. Et il va nous montrer l'immensité de l'œuvre qui est à faire pour Dieu. L'œuvre de Dieu est immense. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est une œuvre qui n'est jamais achevée. Et de cette manière, le diable va nous pousser dans l'activisme. Il y a tellement à faire pour les autres, pour les amener à Christ, pour le service de Dieu. Il y a tellement à faire. Ainsi, le diable va nous pousser à l'activisme. En fait, ça fait notre affaire. Parce que tant que nous sommes actifs, le moi est actif en même temps, et nous n'avons pas besoin de le faire mourir. Parce que, actifs que nous sommes au service de Dieu, nous sommes reconnus par les autres comme quelqu'un qui vraiment donne de lui-même, fait beaucoup de choses pour les autres, sert énormément son entourage. Et ce faisant, nous nous sentons bien dans cet activisme. Le moi s'épanouit parfaitement et la barrière est gigantesque pour barrer la route à l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Le diable a donc ses contrefaçons. Regardez par exemple dans le prophète Ésaïe au chapitre 29 et au verset 13 où il est dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des principes qui sont des commandements d'homme. » Et dans un autre texte de l'Ancien Testament, nous avons une illustration parfaite de cet activisme-là. Dieu avait donné l'instruction à Saül, premier roi d'Israël, de combattre les Amalécites. Et lorsque Saül revient voir Samuel, le prophète, pour lui faire son rapport, il lui dit dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15 et au verset 20, « Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devrait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Saül répond, « En fait, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Regarde comme j'ai bien fait mon travail. Le peuple, c'est vrai, a voulu faire un peu autrement, mais c'est pour servir ton Dieu, le tien, comme si ce n'était pas le sien. Oh, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, mais je n'ai pas obéi pour autant. » Cette première barrière que le diable dresse pour empêcher l'Esprit de Dieu d'agir dans notre cœur, c'est l'activisme, car l'œuvre de Dieu n'est jamais terminée. Il y a tant à faire. Mais celui qui s'est lancé dans ce service après un temps se dit en lui-même, est-ce qu'il n'y a pas plus que cela dans la religion du Christ? Est-ce que la religion du Christ n'est que faire, faire, faire? Alors le diable se présente à lui et lui dit, non, il y a une autre étape, une étape supplémentaire dans ton développement spirituel. Et là, le diable nous dit, tu dois maintenant vivre tes émotions. La religion émotionnelle est basée sur la satisfaction de soi, la satisfaction de ce qui nous plaît et de ce qui fait qu'on se sent bien. Cette religion d'émotion fait que finalement nous allons évaluer la volonté de Dieu en fonction de nos émotions, de nos sentiments. Et on va surtout décider de ce qui est vrai et de ce qui est faux en fonction de ce que l'on ressent. Et c'est vrai que le charismatisme aujourd'hui a envahi la quasi-totalité du christianisme contemporain. On finit par se rendre compte que c'est là une barrière, une contrefaçon que le diable a aussi présentée pour empêcher que notre cœur soit touché par l'action de Dieu. La Bible mentionne plusieurs exemples de cela. Apocalypse chapitre 13, dans le contexte de la fin des temps, l'Apocalypse mentionne que ce phénomène va se développer d'une façon globale. Apocalypse chapitre 13, il est question dans ce chapitre, dans la deuxième partie de ce chapitre, d'une bête, et il est dit au verset 13. « Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre plus des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Des miracles extraordinaires, le spectaculaire. Et ce spectaculaire séduit les habitants de toute la terre. Un autre passage dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Amos, au chapitre 5, reprend le même thème dans la version de l'Ancien Testament, où le prophète écrit ceci de la part de Dieu. « Les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. » Le Seigneur réagit et dit « Votre culte, je ne l'écoute plus. Vos chants, vos tintamarres, je ne l'écoute plus. Je ne veux plus de ces sacrifices, je ne veux plus de ces cultes. Simplement parce que vous êtes pris par vos émotions et en réalité la droiture est absente, la justice est absente. » Ainsi, cette deuxième barrière s'avère aujourd'hui extrêmement efficace pour éloigner le croyant de cette action de Dieu pour changer son cœur. Mais au bout d'un moment, le croyant qui est impliqué dans cette religion émotionnelle se pose encore la question, mais cette religion est un peu creuse. N'y a-t-il pas quelque chose d'autre dans le christianisme que ce grand show ? Alors l'ennemi se présente encore, il dit, oui, il y a encore une autre étape à ton développement spirituel, comme une barrière en fait, une troisième barrière, empêchant l'Esprit de Dieu d'agir dans notre cœur. Et c'est ainsi que le diable vient et nous dit, maintenant, tu dois vivre ta religion jusqu'au bout. Pas de compromis. C'est tout ou rien. Tu dois vivre ta religion jusqu'au bout. Pas de superficiel. Jusqu'au bout dans le laisser-aller ou jusqu'au bout dans la restriction. C'est ce qu'on appelle le fanatisme. Le fanatisme où les sens sont utilisés en les poussant jusqu'au bout, dans la restriction ou dans le laisser-aller, on arrive inévitablement au fanatisme. Il y a un exemple caractéristique de cela dans les Écritures. C'est ce qui s'est passé au moment où Moïse était justement sur le mont Sinaï en contact avec Dieu. En bas dans la vallée, le peuple attendait impatient le retour de Moïse. Et vous savez comment ils ont mis la pression sur Aaron pour qu'il leur fasse un autre Dieu et qu'on trouve un autre chef, soit pour les emmener en Égypte, retournons à la maison, soit allons prendre cette terre promise que nous n'avons pas encore. Et vous vous souvenez comment le peuple s'est engagé dans un culte païen, finalement, en prétendant cependant adorer Dieu. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, nous avons là la description de cette situation à partir du verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Je trouve extrêmement intéressant la manière avec laquelle Ellen White apporte un commentaire de ce même verset. Elle écrivait ceci. Remarquez bien l'influence des extrémismes et des fanatismes pour ceux qui servent leur maître, Satan. Dès que le malin tint le peuple sous son contrôle, il exprima les mêmes traits de caractère que lui. Le peuple mangea et but, sans même penser à la nécessité de résister au mal qui les conduisait dans les comportements les plus honteux. Il y avait de la joie, de l'hilarité, des chants extravagants qui excitaient leurs sens. On remarque ici le lien entre le fanatisme, les extrémismes et l'excitation de leur sens. Ça, c'est une autre barrière. Tu dois vivre ta religion jusqu'au bout, au bout même dans l'erreur, au bout même de ce que les sens te demandent, soit dans le laisser-aller, soit dans la restriction. Ainsi, la méthode de Dieu et la méthode du diable pour travailler en nous sont deux méthodes fondamentalement opposées. Le diable veut travailler de l'extérieur. Le Seigneur veut travailler depuis l'intérieur. Souvent, nous sommes comparés dans les Écritures, nous les humains, à des arbres. Parce que l'arbre porte ses fruits par ce qu'il a à l'intérieur, vers l'extérieur. C'est ainsi que le Seigneur veut travailler en nous. Et c'est la raison pour laquelle, dans le livre des Proverbes, au chapitre 23 et au verset 26, Dieu donne cet appel très clair, qui nous montre à quel point il veut travailler, non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Il dit ici, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Donne-moi ton cœur. C'est par là que le Seigneur veut commencer. Donne-moi ton cœur. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'Ancien Testament résonne de cet appel, nous montrant que le plan de Dieu n'est pas d'acheter, de vendre le Seigneur, d'acheter ou de mériter sa faveur. Qui pourrait y arriver? Mais de lui donner notre cœur. Et lui donnera le cadeau le plus incroyable qui existe, le salut en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, ce plan était déjà en vigueur. Regardez dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, nous lirons dès le verset 26. Il est écrit ceci. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Tout commence en donnant à Dieu notre cœur. Tout commence lorsque le Seigneur change notre cœur, lorsqu'il enlève ce cœur de pierre, ce cœur dur, et qu'il met un cœur de chair. Ainsi, nous ayant donné la grâce de vivre l'expérience de la conversion, changeant notre cœur, il peut travailler vers l'extérieur. Et c'est ainsi qu'au verset 27, il est dit, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, dit Dieu, que vous suiviez mes ordonnances. » À partir de ce moment-là, nous arriverons à vivre et à obéir à ce que le Seigneur désire nous voir faire pour sa gloire. Il veut travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Par nature, nous sommes tellement tentés de faire dans l'autre sens. Et le diable profite de cette tendance que nous avons pour ajouter barrière sur barrière à l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Ainsi, lorsque Jésus est entré dans le parvis du temple et qu'il en a chassé tous ceux qui faisaient du commerce, Jésus a voulu leur faire comprendre que son temple n'est pas une place de marché. Son temple est une boutique de cadeaux dans laquelle on ne va pas acheter des cadeaux, mais dans laquelle on va pour recevoir le cadeau que Dieu nous offre en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu commence par nous dire « Donne-moi ton cœur. » Amen.